et sagesse, le développement personnel, font florès en librairie en ce moment. Il y en a un qui a retenu notre attention. C'est celui d'une auteure qui a une actualité littéraire importante, une auteure qui est coach, formatrice, journaliste et qui publie aux éditions Le Duc les 4 sagesses indiennes. Bonjour Caroline Frizou.
Bonjour Guylaine.
Merci d'être venue jusqu'au studio d'FM+.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir.
Écoutez, après avoir lu votre livre, c'était inévitable.
Merci.
Alors, est-ce que je vous ai bien présenté d'abord ? Est-ce que j'ai oublié des aspects de votre vie active ?
Non, vous n'avez vraiment rien oublié.
Je ne parle pas de la vie personnelle.
Non, mais effectivement, sur la vie active, je suis également experte en fait pour Elle se réalise, qui est un média d'inspiration féminin dédié à la reconversion professionnelle des femmes. Voilà, et qui est animé par Sandrine Gentil.
D'accord.
Également.
Et puis, je crois aussi avoir lu Open Mind, vous y avez une place.
Exactement, je suis journaliste, particulièrement effectivement à Open Mind, donc qui est un magazine de développement personnel et qui est donc diffusé en France, en Belgique et en Suisse.
Bon, voilà, là on a tout dit.
Oui.
Bon. Alors, Les 4 sagesses indiennes, c'est votre premier livre.
Oui, tout à fait.
Et ce livre commence avec une rencontre. Enfin, pour moi, une rencontre qui n'en était pas tout à fait une. J'intitulerais ça plutôt un croisement, un frôlement avec cette femme en sari rouge dans le tramway parisien. Vous nous dites, l'étoffe laissait entrevoir un pan de peau mat orné de symboles tatoués au nez. Alors, ça s'est vraiment passé comme ça ?
Oui, ça s'est vraiment passé comme ça. Alors, en fait, c'était plus précisément, en fait, c'était pas à Paris, c'était vraiment à Montpellier.
Ah, c'était à Montpellier.
Et c'était à Montpellier parce que moi, je vis sur Montpellier. Et c'était quelque chose, en fait, qui a fait irruption, entre guillemets, dans ma vie. À un moment, en plus de ça, où j'étais complètement déstabilisée et où, justement, j'étais en mode automatique. Et j'étais tellement en mode automatique que justement le fait d'avoir eu un geste bienveillant de la part d'une personne qui était complètement inconnue, que vous croisez comme ça, j'étais pas forcément habituée justement à le remarquer.
C'est ça, elle a eu un regard.
Exactement, elle
à
a eu un regard
égard.
En fait à mon égard de compassion. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ont un ressenti très fort. Et elle justement, elle a eu bien ce geste là envers moi. Et il m'a marqué parce qu'en fait l'Inde ça a toujours fait partie en fait de ma vie depuis petite. Et là ça m'a fait, c'est comme si vous aviez eu un arrêt sur image. Et j'ai vraiment eu en fait ce moment où j'ai vu la scène et où je me suis complètement en fait focalisée sur l'instant. Donc ça a vraiment été une pause et un espèce aussi, je dirais, de déclencheur en fait et de prise de conscience.
Mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là où vous plaquez tout?
Alors
c'était
presque,
pas aussi radical.
Oui, presque, effectivement. En fait, il y avait eu donc un marque-page qui m'avait été donc remis par un contrôleur, donc tout simplement, et à mon avis qui lui appartenait en réalité, parce que c'était quelque chose où il y avait des mots en sanskrit. Donc je pense pas que beaucoup de personnes savent lire le sanskrit. Et lorsque ça m'a été donné, sans connaître en fait la signification des termes, j'ai ressenti, parce que je suis quelqu'un qui est ultra sensible, hypersensible. Et j'ai ressenti en fait que j'étais en train d'avoir quelque chose d'extrêmement fort en termes énergétiques. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai une lubie, je ne lâche jamais rien. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je sache ce qui a marqué et ce que ça veut dire. Donc c'était quelque chose que je ressentais, que je pressentais. Et à partir de là, eh bien, effectivement, j'ai dit, ok, maintenant je m'arrête de mon travail principal. J'ai besoin de souffler et j'ai besoin de comprendre parce que ça... J'entrevoyais la brèche que ça allait être, que ça allait être dans ma vie. Et du coup, voilà, bah, tout simplement, je me suis mis effectivement à la quête de compréhension par rapport à ces mots-là, de transcription d'abord. Et puis ensuite, voilà, eh bien, il y a eu, on va dire, tout s'est enchaîné, en fait. C'était le premier galet. Voilà. Comme le petit poussé. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres. Et jusqu'à la rédaction de cet ouvrage.
Ouais.
Les quatre sagesses indiennes.
Tout à fait.
Alors, donc 4 sagesses, 4 principes, 4 principes qu'on va tranquillement dérouler tout au long de cette émission. Et le premier, c'est celui-là, et quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Alors vous nous dites, page 26, il y a toujours une raison pour laquelle un individu croise un jour notre route. Alors, Est-ce que ça veut dire que chaque rencontre ferait-elle sens dans nos vies ? Est-ce que c'est ça que vous nous dites ?
Oui, alors c'est vrai que en tous les cas, ce principe, c'est quelque chose sur lequel je suis extrêmement interrogée. Parce qu'on me dit, mais toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, elles ne sont pas forcément bonnes. Et en fait, le propos n'est pas là. Le propos est effectivement que chaque personne en fait, que vous allez rencontrer va représenter quelque chose sur votre route et va en tous les cas... apporter que ce soit quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, ça fait partie de la vie. Mais effectivement que chaque rencontre a un sens que notre ego parfois ne peut pas comprendre. Par ego, j'entends personnalité, j'entends orgueil, voilà, j'entends tout ça. Donc moi je suis vraiment beaucoup plus sur le plan de l'âme et je pars effectivement de ce principe-là que l'âme c'est toujours en réalité. Voilà. Et que du coup, votre âme sait pourquoi vous allez rencontrer cette personne.
Ah oui, c'est SAIT, c'est toujours.
Exactement.
Du verbe savoir.
Exactement. Elle sait toujours. Tandis que votre ego, parfois, peut se dire, mais c'est pas possible, en fait. Cette personne-là, je veux pas la voir, je veux pas la rencontrer. Je comprends pas pourquoi elle s'accroche ou je m'en serais bien passée. Voilà, des choses qu'on peut se dire.
Voilà. Alors... En effet, on peut se poser la question du mal, finalement. Les personnes vous questionnent sur la question du mal. Pour moi, c'est moins la question de la personne, mais plutôt de l'acte que va produire ou pas cette personne.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est l'acte, en fait, que va produire cette personne. Quand on repense à notre enfance, par exemple, il y a des personnes bienveillantes qui ont encadré nos vies, qui ne sont peut-être plus là aujourd'hui, mais qui nous ont apporté un goût, par exemple, peut-être pour les arts, un goût pour le voyage, pour la conduite. Voilà, des choses extrêmement simples. Il y en a d'autres qui nous ont marqués parce que, tout simplement, on a éprouvé des sentiments très forts pour eux, pour elles. Et puis il y a eu aussi des amis, donc des choses extrêmement positives. On est nourri en fait par ces rencontres. Après, il y a des rencontres aussi qui peuvent parfois nous amener en fait à plonger en nous-mêmes. Et peut-être se positionner, se repositionner, faire éclore quelque chose, faire un changement, marquer une rupture. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est tout ce que vont nous apporter ces personnes qui vont ensuite impliquer un mouvement de notre part.
Alors, votre livre, il est construit pour les quatre parties d'une façon quasi similaire.
Tout à fait.
Deux particularités, des récits, des anecdotes qui viennent illustrer le précepte et puis une série de rituels.
Oui.
Alors, au sujet des récits de Anna, de Mehdi, d'Aurore, de Yaël, comment est-ce qu'ils sont arrivés jusque dans votre livre ? Comment vous les avez pu les intégrer comme ça ?
D'abord, en fait, dans un premier temps, quand j'ai commencé à écrire, il y a eu vraiment plusieurs parties. Mon introduction, je l'ai écrite, on va dire, de manière très canalisée avant même de savoir que j'en écrirais un livre. Ensuite, il y a eu la phase où je connaissais en fait des personnes indiennes et sri-lankaises dans mon entourage sur Pau, parce que à l'origine je suis paloise. Et donc là, je leur ai demandé en fait de me donner en fait les transcriptions pour bien saisir en fait ce que ça voulait dire. Et ensuite, une fois qu'il y a eu ça, pour moi, il était évident que c'était très très important de pouvoir montrer que la spiritualité, c'était quelque chose d'incarné. C'était pas quelque chose, en fait, de totalement perché ou de réservé à des personnes dites éveillées ou quoi que ce soit, mais qu'en réalité, ça s'inscrivait dans chaque acte de la vie quotidienne. Et à partir de là, j'avoue que la vie m'a mis, entre guillemets, pas mal de parcours de personnes. Donc, que ce soit par des rencontres que j'ai faites, par des amis que j'avais, aussi également par le travail. Et ça, en fait, c'était quelque chose de formidable parce que je me suis dit, mais attends, ces personnes-là, elles incarnent, en fait, ces principes. Donc, pourquoi, sans même le savoir, donc pourquoi ne pas justement le montrer ? Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant parce que le lecteur aussi peut s'identifier. Il y a une partie vraiment, effectivement, explicative. Et puis ensuite, il y a eu la partie où, tout un chacun peut picorer, entre guillemets, dans le témoignage de la personne. Et ça peut évoquer et faire résonner des sentiments et des situations vécues. Donc ça a vraiment été la vie, ça a été parfois des amis aussi qui ont accepté en fait que je retranscrive leur témoignage. Voilà, et puis il y a eu également des rencontres grâce au travail par rapport notamment à Stéphane Sarad, où là c'est moi en fait qui le connaissais d'une vie professionnelle autre, on va dire, et voilà, et qui avait perdu son fils Hugo au Bataclan. Mmh. Et donc je lui avais dit, écoute, est-ce que tu me fais confiance pour pouvoir écrire par rapport à ça. Il m'a dit, je te donne carte blanche, je trouve c'est important. Et voilà, donc vraiment ça a été des concours de circonstances, mais aussi ma vie personnelle qui m'a amenée à ces personnes, et de manière globale la vie.
Mmh. Et la question des rituels, alors, c'est voilà, ça fait partie d'une tradition indienne, ou est-ce que c'est occidentalisé? Alors comment ça se passe?
Alors les rituels, en réalité, c'est des choses qui appartiennent à toutes les cultures. Des choses en fait, des successions d'actes, donc c'est des actes ou des successions d'actes qui sont posés en pleine conscience, et de tout temps finalement c'est quelque chose qui a existé, que ce soit dans les civilisations incas, que ce soit dans les civilisations indiennes, bouddhistes, mais aussi nous, parce que par exemple on a des rites également de passage dans les âges adultes, dans l'enfance aussi, voilà, peu importe notre confession. Donc c'est finalement quelque chose qui est, on va dire, voilà, qui est universel. Et à partir de là, en fait, voilà, les rituels en tant que tels, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça donnait quelque chose d'extrêmement pratique. Encore là, la volonté d'incarner finalement la sagesse dans sa vie et de pouvoir se l'approprier. Et ça, je trouve que c'est très important pour le lecteur, parce qu'il y a deux choses quand vous lisez, pour moi, un ouvrage. Il y a la prise de conscience et il y a l'action.
La mise en pratique.
Je suis convaincue que la mise en pratique, c'est essentiel si on veut vraiment intégrer et faire bouger les lignes dans notre vie.
Mmh. Allez, on fait une petite pause musicale avant de continuer la lecture de ce livre, Les Quatre Sagesses Indiennes, de Caroline Frizou, en notre compagnie. Ça va? Tout va bien?
Oui, super.
Dans les studios de FM+, avec nous, Caroline Frizou, Les Quatre Sagesses Indiennes, publié aux éditions Le Duc. Alors nous avons évoqué avec vous, Caroline, le premier principe, aussi la globalité de la méthode de travail dans ce livre, que vous appliquez dans ce livre. Oui. Alors, il a été préfacé par Patrick Poivre d'Arvor. Alors pourquoi lui?
Alors ça, c'est vraiment une histoire de famille.
Ça aide parfois la famille.
Alors non, pas du tout dans ce sens-là, par contre, parce que je ne le connaissais pas.
Ouais.
Mais ma grand-mère, en fait, à l'âge de 19 ans, m'avait fait cadeau de deux livres, en fait, qu'il avait écrits pour sa fille Solène, Lettre à l'absente, et elle n'était pas d'ici, parce qu'on m'avait découvert une maladie incurable à l'âge de 19 ans. Et ça a été, en fait, un moyen de renouer avec le dialogue, donc par le prisme de la littérature. Et j'ai été en fait bouleversée par les mots qu'il avait employés dans ces deux ouvrages. Et en fait, ma grand-mère m'avait dit, mais tu verras, un jour, c'est toi qui vas écrire un livre et c'est toi qui seras préfacé par Patrick Poivre d'Arvor.
Oh, et je lui disais, quelle belle prémonition.
C'est ça, mais je disais, écoute, j'ai dit, tu es adorable, mais je pense que, voilà, tu n'es peut-être pas très objective. Et en fait, des années plus tard, moi, elle est décédée aujourd'hui. Des années plus tard, c'est vrai que quand on m'a demandé si je souhaitais une préface et de qui, ça a paru en fait comme une évidence, parce que la sensibilité et la sagesse pour moi qu'il incarne, son parcours de vie, les épisodes aussi qu'on connaît de sa vie, il a connu la perte d'un enfant, il a connu des choses extrêmement fortes et délicates, et la manière dont il a fait preuve de résilience, de pudeur, c'était vraiment en fait ce que j'avais aussi envie d'associer à ce livre-là. Et à partir de là, je me suis dit, très bien, je vais me lancer. Il y a très peu de chances que j'y arrive, parce que c'est quand même un pari un peu fou. Et j'ai écrit une lettre, en fait, avec tout ce que j'étais. Finalement, j'ai tout mis, j'ai mis mon cœur dedans. Et ensuite, j'ai fait... Donc j'ai envoyé cette bouteille à la mer, et entre le moment où cette bouteille a été lancée et le moment où j'ai eu un oui, il y a eu en fait une bibliothèque qui a été montée dans le salon. Et donc mon conjoint m'a dit, écoute, tu ranges en fait tous les bouquins que tu as. Donc il y avait des grands cartons. Et là, en fait, j'ai pris le premier au hasard. Et là, je tire le premier livre. C'était Lettre à l'absente de Patrick Poivre d'Arvor. Le second, elle n'était pas d'ici. Il faut dire que j'ai à peu près 1000 livres. Et à l'intérieur de Lettre à l'absente, il y avait une photo, hein, sachant que je n'ai quasiment pas de photo papier. Et c'était une photo papier de ma grand-mère et moi, quand j'avais 18 ans, en train de boire une coupe de champagne pour célébrer mes 18 ans. Et là, en fait, il m'a dit, mais en fait, tu as ta réponse, tu l'as là, ta réponse. Elle est juste sous tes yeux. Et effectivement, 10 jours après, ben, j'ai eu un accord. Voilà, un accord de principe, donc j'étais folle. Et un mois après, je recevais la préface manuscrite.
Belle histoire.
Ah ouais, ouais, incroyable.
Alors, nous allons dérouler ces quatre principes de la sagesse indienne. Le premier, nous l'avons vu, c'est la rencontre. Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Mm-hmm. Le deuxième principe, c'est ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver.
Ouais.
Là encore, on se dit, mais waouh,
comment dur, ça hein.
Ah, oui.
C'est dur pour l'ego. Hein.
C'est unique chose, comment est-ce possible avec tout le potentiel qu'il y a dans notre vie à chaque instant.
Alors justement, c'est sûr qu'il y a un potentiel infini, mais moi je crois, et c'est le positionnement aussi en fait dans ces sagesses, qu'on n'est ni 100% subi, enfin c'est pas quelque chose où on prédétermine, et on n'est pas 100% acteur. Pour moi dans la vie, il y a constamment en fait une co-création entre l'univers et soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, maîtriser sur son chemin la mort, par exemple, d'un être qui part trop tôt. Ça, c'est des choses qui vont arriver. On ne peut pas forcément maîtriser aussi le fait de tomber malade.
À vrai dire, on ne maîtrise pas grand-chose.
Voilà. Il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas maîtriser. D'autres qu'on peut. On peut, par exemple, se dire, pour limiter les risques de maladie, par exemple, je ne vais pas fumer, je vais aller faire du sport, etc. Donc, mais par contre, vous ne pouvez pas être sûr à 100%. Il n'y a jamais de risque zéro. Et donc, ce qui est dit là, en réalité, c'est que si quelque chose arrive dans votre vie, et vous l'observez autour de vous, eh bien, les possibilités de réaction vis-à-vis de cet événement peuvent être très diverses. Et à partir de là, en fait, on est toujours libre, par contre, de ce qu'on va impulser à partir de ce moment-là, quand quelque chose va nous arriver. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je suis tombée malade, j'avais 19 ans, j'aurais pu complètement m'effacer, tomber au fond du trou, j'ai été paralysée pendant un an et demi après. Donc, vraiment, voilà, j'aurais pu en fait avoir ça. Et en fait, quand j'ai plongé en moi, j'ai dit non, ça c'est une expérience en fait de vie, c'est quelque chose que je dois passer par là en réalité. Et je pense que c'est toujours utile de se rappeler qu'on a le choix de la réponse par rapport à ce que la vie nous met en réalité devant nous. Alors c'est pas forcément évident, c'est peut-être pas quelque chose qui va se faire en un jour, bien sûr. Ça dépend des comportements, ça dépend des armes qu'on a aussi, ça dépend de l'entourage, ça dépend de plein de choses. Mais que ce soit maintenant, dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 2 mois, vous aurez toujours quand même la réponse par rapport à ça et rien n'est jamais trop tard.
Absolument. Vous êtes aussi en train de dire qu'il n'y a pas de destin marqué. On est quand même dans un libre arbitre qui est là.
Exactement. Il y a un libre arbitre par rapport, en fait, à ce que vous allez impulser ensuite et ce que vous allez faire de l'événement qui vous arrive. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, pour moi, sur lesquelles qui sont inéluctables parce que ça doit se passer comme ça en réalité, même si ça nous fait extrêmement mal. Mais à partir de ce point d'ancrage-là, quand par exemple, voilà, j'ai une amie qui a perdu son père, eh bien, ce point d'ancrage-là était inéluctable. À partir de là, elle s'est dit, oui, mais regarde la chance que j'ai eue de le connaître toutes ces années, regarde ce qu'il m'a apporté. Et en fait, je vais utiliser ça pour pouvoir, eh bien, construire à mon tour une famille et apporter toutes les valeurs qu'il m'a transmises. Mais ça, pour moi, c'est un formidable exemple de ce qui est arrivé, l'unique chose qui pouvait arriver. Parce que peut-être qu'elle aurait agi différemment si jamais cet événement-là ne s'était pas marqué dans sa vie. Voilà.
Absolument. Alors, les deux derniers principes, pour moi, font plus référence à la question de la temporalité.
Exactement.
Chaque moment est le bon moment, nous
dites-vous,
sagesse numéro 3, et la sagesse numéro 4, ce qui est terminé est terminé.
Oui.
Là, cette question de présence au présent que vous mettez bien en valeur.
Oui, c'est très... Ben oui, parce que en réalité, le présent, c'est la seule réalité qu'on a. Bien sûr, ça n'exclut pas le fait de faire des projets, ça n'exclut pas le fait également de se servir des ressources du passé, des événements de vie qui nous ont marqués. Il y a pas de souci. Mais par contre, c'est toujours la juste attitude pour privilégier en réalité l'ancrage dans l'instant. Parce que cet instant-là, si vous n'en profitez quittez pas, il va filer, il va pas vous attendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que même si vous avez des projets, vous pouvez utiliser en fait le moment présent pour pouvoir impulser d'ores et déjà le mouvement que vous allez avoir dans votre vie. Donc c'est vraiment effectivement une urgence et un rappel plutôt à quoi qu'il advienne, investissez finalement ce présent-là, servez-vous-en.
Voilà, ne cherchons pas à trop anticiper, vous l'évoquez à un moment donné, sinon c'est une course après le temps, non, voilà, on est là,
ben
on
oui.
le vit.
Parce qu'on se dit toujours, je vais être plus heureux quand je vais quitter mon travail, quand je serai à la retraite, quand... Et pendant tout ce temps-là, est-ce que vous êtes heureux?
C'est ça. Aujourd'hui, à la minute.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous rendre heureux, réalité? Comment vous allez nourrir ce bonheur-là aujourd'hui? Bien sûr que peut-être vous allez réaliser certains projets plus tard, mais pourquoi pas tout de suite, dans le fond?
Qu'est-ce qui empêche?
Comment vous pourriez l'initier et comment vous pourriez réfléchir? Moi, par exemple, j'ai toujours rêvé de voyager. J'ai toujours rêvé ça. J'ai pas eu cette chance-là de voyager à l'étranger énormément jusqu'à mes 30 ans. Et puis, j'ai compris que c'était quelque chose qui m'appelait de manière irrationnelle. En fait, j'avais un besoin vital de le faire. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, très bien, mais pour ça, il faut que je quitte quand même mon travail alimentaire. Eh bien oui, là, je vais le faire. Voilà, parce que c'est l'unique chose qui peut arriver et c'est maintenant.
C'est ça. Et c'est maintenant, et c'est aussi maintenant qu'on peut lire Les Quatre Sagesses Indiennes de Caroline Frizou, publiée aux éditions Le Duc, un livre qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies montpelliéraines.
Tout à fait, voilà, toutes les librairies montpelliéraines, également Sorance. J'ai été à la comédie du livre sur le stand de Sorance. Ouais. La FNAC aussi, et puis Fier de l'être également peut le commander sans aucun souci. Gilbert Jeune, voilà, tout à fait.
Toutes. Merci Caroline Frizou.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, ça va?
Ouais.
Parfait.
Ouais,
super.
Ouais,
super. Bonne maîtrise.
Ouais, j'aime bien.
Elle a été bonne, hein?
Ouais.
Elle a été excellente.
Et j'adore en fait, parce que j'en avais fait un petit peu.
Ouais.
Quand j'avais 15 ans, j'ai participé à l'antenne. Mais là, c'était pas en studio, donc c'était moins impressionnant. Mais pendant 3 ans, tous les jours, je participais à l'antenne.
D'accord.
De manière très minutée sur Fun Radio.
Ah ouais, très bien.
Et donc, c'était quelque chose que j'adorais en fait, radio, dans la radio.
Ouais.
Et ensuite, j'ai renoué un petit peu avec Servane. Je sais pas si vous la connaissez, Servane de France Bleu, mais Gare.
D'accord, non, je la connais pas.
Ouais. Un petit peu l'année dernière via Open Mind.
D'accord.
Parce qu'elle avait adoré, donc elle nous avait invités.
Ouais.
Et puis là, depuis que je commence, depuis le livre, en fait, j'ai eu deux invitations radio. Et moi, c'est toujours un plaisir de venir à la radio.
C'est ça.
J'adore la radio.
Bah ouais, c'est un super média.
J'adore.
Je suis d'accord, c'est un super média.
C'est la voix, on peut se poser,
Moi aussi, je trouve que c'est plus ça va, plus je trouve que c'est un média incontournable. C'est clair.
C'est clair.
On est d'accord.
C'est ça.
Bon, ben, génial.
Tu veux que je te prenne
Ouais. Et
moi aussi, si tu veux. Ouais, assieds-toi.
C'est comme ça? Comme ça? Je fais semblant de parler, c'est ça?
Hein?
Je fais semblant de parler? Ok.
Ouais, tu peux me regarder. C'est bon. C'est pas la même chose.
Ouais.
Hein?
La prochaine fois, tu parles.
Ah, peut-être elle a un rendez-vous.
Oui.
Hein?
La prochaine fois, tu parles. Hein?
Hop là.
Viens par là.
Pardon? Ben, à partir de la semaine prochaine. Après, ça dépendra de la longueur. Et...
Moi, je l'annonce.
Voilà.
Merci, on t'a fait un. Hé !
Pourquoi ?
Moi, parce que je le passe déjà.
D'accord, non, mais
je le passe.
D'accord.
Stéphane, tu n'enregistres rien sur le forum Action.
Si tu veux.
Non, sinon, c'est pas si je veux, mais
c'est pour dire qu'on y participe.
À répétition. C'est pas...
D'accord, si tu veux. Mais j'en ai pas pour des siècles pour le reste. Bon.
Bon, je vais chercher Solange.
Je me mets où, moi ? Là-bas. En face.
La porte, hop là. Oups.